Son ensemble continue sa tournée à travers l'Hexagone jusqu'au 6 avril. RFI midi 30 à Bamako et en temps universel. Afrique Midi, c'est avec vous, Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer. Et à la une de cette édition, Donatien Cholet et Emmanuel Ramazani Chadari, convoqués par le vice-premier ministre de l'Intérieur congolais. Le secrétaire général de la CENCO et le secrétaire permanent du PPRD doivent répondre de plusieurs déclarations prononcées ces derniers jours. La RDC, où les musulmans célèbrent le début du Ramadan ce week-end, à Bukavu, nous le verrons, les fidèles se préparent tant bien que mal pour un mois de jeûne. Reportage dans quelques instants. Radié de l'armée pour avoir utilisé son téléphone, nous vous racontons dans Afrique Midi l'histoire de ce sous-officier burkinabé. Il est révoqué après avoir lancé un appel pour faire évacuer ses camarades blessés lors d'une attaque de leur base par un groupe terroriste. Nous serons également au Tchad, c'était il y a un an, Yaya Dilo tué dans l'assaut de l'armée contre le siège du parti. Les proches de l'opposant saisissent la justice française, nous l'entendrons. Et puis, il était il y a quelques semaines encore visé par une obligation de quitter le territoire français. Le Guinéen Abou Sangaré, sacré au César, l'acteur non professionnel, a remporté le prix de la meilleure révélation masculine pour le film « L'histoire de Souleymane ». Monseigneur Donatien Cholet sommé de s'expliquer ce samedi. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo est convoqué par les autorités congolaises. À Kinshasa, il doit répondre aux questions du vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, notamment à propos d'un récent communiqué de la CENCO. Dans ce texte, Donatien Cholet évoquait la stigmatisation et la chasse aux Congolais d'expression swahilophone à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Pascal Mouligoua.
La convocation est officiellement adressée au secrétaire général de l'épiscopat catholique pour une réunion de travail à 11h, mais dans ce courrier, le vice-premier ministre durcit le ton. Je vous prie de bien vouloir apporter toutes les preuves nécessaires pour étayer vos allégations. Le numéro 2 du gouvernement dit avoir besoin des lieux, noms des personnes victimes et leurs adresses. Des informations que le ministre estime cruciales, même s'il a déjà qualifié les faits dénoncés par les évêques, j'y cite, des rumeurs des réseaux sociaux qui visent à jeter de l'huile sur le feu. Monseigneur Donatien Cholet n'est pas le seul à être convoqué. Premier ministre attend aussi en son cabinet de travail à Ramazani Chadari, secrétaire permanent du parti de Joseph Kabila. Le motif n'est pas connu, mais plus tôt dans la semaine, l'ancien président avait épinglé dans un quotidien sud-africain la mauvaise gouvernance du président Tshisekedi. De leur côté, les autorités accusent Joseph Kabila d'être derrière la rébellion du M23 AFC dans l'est du pays. L'un des vice-premiers ministres a même affirmé qu'il est parrain de la milice Mobondo dans les provinces de la région du Bandundu à la sortie de Kinshasa. Des accusations que l'ex-parti présidentiel a jugées absurdes et totalement mensongères pour salir l'image de Joseph Kabila. Pascal Mouligoua, Kinshasa, RFI.
Après sa visite à Kinshasa et sa rencontre avec le président Félix Tshisekedi et la première ministre, Jean-Pierre Lacroix est à Beni aujourd'hui. Une visite du chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU au nord du Nord Kivu, là où le gouverneur militaire de la province a été relocalisé après la prise de Goma par l'AFC M23. Le numéro 2 de l'ONU a notamment rencontré les soldats de la MONUSCO. Jean-Pierre Lacroix en a profité pour appeler au respect de l'intégrité territoriale de la RDC.
D'abord, nous avons parlé de la situation générale résultant de l'offensive du M23 avec le soutien des forces armées rwandaises et les conséquences catastrophiques dans de nombreux domaines, et notamment des domaines humanitaires, économiques et sociaux. Et les messages importants qui tiennent notamment à la nécessité critique de mettre en œuvre la résolution 2773 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité, qui contient respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, nécessité impératif d'un cessez-le-feu, de mettre en œuvre tous les engagements qui ont été pris résultant des processus de Luanda, de Nairobi. Bien sûr, ça doit comprendre un retrait des forces armées rwandaises, une ouverture du Conseil de sécurité à donner un mandat rapidement à la MONUSCO pour superviser le respect du cessez-le-feu dans le cas où ce cessez-le-feu se matérialiserait, ce que nous espérons évidemment.
À des propos recueillis au micro d'Erickson Louembwe de la rédaction en Swahili de RFI. Toujours sur le plan diplomatique, rendez-vous manqué hier entre les ministres des Affaires étrangères de l'EAC et de la SADC, les communautés d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Une réunion attendue hier a donc finalement été été reportée à une date qui reste à déterminer. Les musulmans de l'Est de la RDC s'apprêtent, eux, à passer un mois de Ramadan et ce donc dans un contexte de guerre. À Bukavu notamment, le chef-lieu du Sud Kivu, sous le contrôle des rebelles du M23, et bien là-bas, des responsables musulmans ont décidé d'adapter leur programme de prière. Les fidèles, eux, se préparent donc tant bien que mal. Le reportage de Lisa Fabian.
Dans son petit dépôt familial, Amina Mouarabou a acheté quelques kilos de pommes de terre et des bananes plantains. Elle les cuisinera pour l'iftar la nuit qui suit le jeûne.
J'ai été obligée d'acheter une quantité réduite d'abord, vu la situation. Les denrées alimentaires sont réduites à la hausse sur le marché. Les chômages aussi aggravent beaucoup plus cette situation. J'espère que tout finira par s'arranger et qu'Allah va nous aider à surmonter cette situation.
Jusque-là, les banques ne fonctionnent pas, ce qui embarrasse de nombreux musulmans qui voudraient subvenir aux besoins de leur famille avant le début du Ramadan. Mais la situation sécuritaire les inquiète encore plus. Les responsables musulmans ont décidé d'adapter le programme des prières. Cheikh Yassine Kapongo Mukoko est le président du conseil théologal de la communauté musulmane de Bukavu.
Pour la sécurité de nos croyants, on a jugé d'exclure la prière du Taraweh. C'est la prière spécifique dans les mois sacrés du Ramadan. Ça commence à 19h, ça se termine aux environs de 20h, 21h comme ça. Et mélanger Maghrib et l'Aïcha. Le Maghrib et l'Aïcha, ça veut dire la prière de 18h et celle de 19h. Donc, ils sont mélangés. À 18h, on mélange tout pour que tout le monde puisse aller chez lui.
Cet aménagement du programme de prière concerne les musulmans qui vivent aux alentours de la mosquée. Cheikh Yassine demande à ceux qui en sont éloignés de prier chez eux.
Et le début du Ramadan, c'est donc aujourd'hui pour la plupart des musulmans de la planète. Mais comme en Iran ou au Maroc ou encore au Sénégal, la période de jeûne des musulmans débutera demain dimanche. Le Sénégal, justement, où le gouvernement répond à Macky Sall. Dans un entretien accordé à la radio RFM, Moustapha Ndiaye Sarré, ministre et porte-parole du gouvernement, affirme que le président de la République de 2012 à 2024 ne peut pas échapper à la justice parce que, je cite, il est en quelque sorte le chef de gang. Avant-hier jeudi, Macky Sall dénonçait, lui, dans Jeune Afrique, un récent rapport de la Cour des comptes mettant en cause la gestion des finances publiques durant son second mandat. Un procédé politique, selon l'ex-chef d'État installé au Maroc, il dit aussi n'avoir peur de rien concernant d'éventuelles poursuites. Un sous-officier radié des forces armées du Burkina Faso pour faute particulièrement grave. Le sergent-chef Mamadou Bouda est sanctionné pour avoir utilisé son téléphone portable sur le théâtre des opérations. Le sous-officier avait en effet alors lancé un message demandant l'évacuation de ses camarades blessés et ce au cours d'une attaque de leur base par un groupe terroriste. Une initiative, Alexis Guilleux, qui contrevient à la loi sur le statut général du personnel des forces armées.
La note de radiation signée par le commandant du groupement central des armées indique que le sergent-chef Mahamadou Bouda a violé les consignes relatives à la détention de téléphones portables et à l'usage des réseaux sociaux sur le théâtre des opérations. Le sous-officier est accusé d'avoir enregistré et diffusé un audio à caractère subversif pendant l'attaque terroriste qui a visé son détachement militaire. Un acte qui porte atteinte au moral des forces combattantes, selon le colonel Bapio Narcisse Basinga, qui cite la loi sur le statut général des personnels des forces armées. Le 22 janvier dernier, des hommes armés ont attaqué le détachement militaire de Séba dans la région du Sahel. Après plusieurs heures de combat, les assaillants ont été repoussés, mais la confrontation a fait plusieurs blessés dans les rangs des forces armées burkinabées. Le sergent-chef Mamadou Bouda avait alors demandé par message l'évacuation des blessés par voie aérienne. « Nous avons été attaqués depuis 14 heures, il y a beaucoup de blessés, ils n'ont pas bénéficié d'évacuation », insistait-il. Au Burkina Faso, la loi sur les personnels des forces armées interdit l'utilisation des téléphones par les militaires et volontaires pour la défense de la patrie, en opération et dans les postes de garde.
Un revers judiciaire en Guinée. Les congrès de l'Union des forces démocratiques de Guinée prévus en avril ont été annulés par le tribunal de première instance de Dixine en proche banlieue de Conakry. Ce matin, dans Afrique Matin, vous avez entendu l'avocat de la direction nationale du parti. Et en réaction, voici celle de maître Mamadou Alpha Boufalo Ba, avocat du camp du ministre dissident Ousmane Gual Diallo.
En qualité de conseil de M. Ousmane Gual Diallo, c'est nous qui avons sollicité cette demande, cette mesure provisoire particulièrement avant du 3, dans, à travers nos conclusions. C'était pour empêcher qu'il y ait des congrès différents au détriment de notre client, ce qui peut poser préjudice à notre client. C'est pourquoi nous avions sollicité cette mesure à travers nos écritures. Et c'est de bon droit que le juge a accédé à cette demande. Là, nous sommes à l'abri, notre client est à l'abri. On ne peut pas organiser un congrès, l'IFDG ne peut pas organiser un congrès sans qu'il y ait la candidature de M. Ousmane Gawal Diallo. Voilà l'objet de la procédure qui nous a amené devant Dixine, dès l'entame sur l'exclusion. Si nous n'avions pas fait opposition à la décision qui a été rendue, on ne serait pas là, il n'y aurait pas cette demande-là. Mais vu que le congrès approche, nous sommes satisfaits parce que c'est nous qui avons demandé à ce qu'il y ait une suspension des congrès. Et c'est juridiquement qu'on l'a demandé. Et c'est de bon droit que le juge a rendu cette décision par jugement avant du droit. Donc nous sommes satisfaits à plus d'un titre.
À des propos recueillis par notre correspondant Mouktar Ba. De l'exil au César, Abou Sangaré a remporté hier soir à Paris le prix de la révélation masculine de l'année. L'ancien sans-papiers guinéen de 23 ans, adoubé comme acteur pour sa participation dans l'histoire de Souleymane, dont il tient le rôle principal. Ce film, un thriller social, suit pendant deux jours le parcours d'un Africain sans papier qui doit trouver quelle histoire raconter à l'OFPRA pour obtenir le statut de demandeur d'asile. Sophie Torlotin.
À 23 ans, Abou Sangaré pourrait déjà dire que Souleymane est le rôle de sa vie. Mécanicien, ce Guinéen a été choisi pour incarner un livreur à vélo sans papier qui demande l'asile.
Moi j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h.
Une sélection au Festival de Cannes, un prix d'interprétation et cet acteur non professionnel obtient un titre de séjour. Et ce parcours est parachevé par le César de la meilleure révélation masculine.
De 2017 jusqu'en avril 2023, j'avais presque plus de vie. Je ne me considérais pas maintenant comme un être humain. Puisque vous savez, depuis que j'ai traversé la mer Méditerranée, tout ce qui est la misère, tout ce qui est l'être humain, le bon comme le mauvais, j'ai connu.
L'histoire de Souleymane décroche trois autres Césars, dont celui du meilleur scénario pour Boris Lochkine et Delphine Agut.
On ne peut pas laisser les médias ni les politiciens raconter la migration. Il est primordial de donner un visage humain à cette réalité, sans plaquer de préjugés, encore moins des préjugés d'auteurs blancs.
Mission réussie pour l'histoire de Souleymane, qui raconte un parcours de migration, mais permet aussi à un mécanicien sans papier d'être régularisé et de s'imaginer une carrière dans le cinéma.
La justice française saisie par la famille de l'opposant tchadien Yaya Dillo, l'opposant président du Parti Socialiste Sans Frontières et cousin du président, était tué à N'Djamena il y a un an, c'était le 28 février 2024, lors d'un assaut de l'armée au siège de son parti. Une riposte face à un échange de tirs, dit le gouvernement, une exécution à bout portant pour ses proches. En tout cas, la famille de Yaya Dillo s'en remet maintenant à un cabinet d'avocats parisiens. Maître Charles-Stéphane Marquien répond à Sidi Yansani.
Nous envisageons sérieusement une saisine de la justice française parce qu'à l'aune des documents qui nous ont été communiqués par la famille Dillo, il apparaît qu'un certain nombre de personnes qui ont la double nationalité franco-tchadienne et donc sont citoyens français à part entière seraient potentiellement dans le champ de l'enquête des responsabilités ayant conduit à la mort de Monsieur Yaya Dillo.
Donc des citoyens français parmi les présumés responsables, mais également parmi les présumés victimes?
Alors des victimes présumées, mais surtout à ce stade, essentiellement du côté des personnes qui seraient impliquées dans les violences, et notamment les violences par balles qui ont entraîné le décès de Monsieur Yaya Dillo. Les requêtes sont quasiment terminées. Elles vont être déposées dans les jours, semaines qui viennent, puisque nous sont validés certains points par Monsieur Ousmane Dillo et par la famille.
Maître Charles-Stéphane Marchiani. Un mot de basket maintenant. On vous parlait hier soir d'un match dans le match entre deux pivots africains qui s'affrontaient la nuit dernière en NBA. Le face-à-face du Sud-Soudanais Bol Bol avec le Camerounais Yves Missi a tenu toutes ses promesses. Les deux joueurs ont d'ailleurs réalisé peut-être leur meilleure performance en carrière. Au final, ce sont sont les Phoenix Suns de Bol Bol qui sont sortis vainqueurs 125 à 108. C'était donc face à la Nouvelle-Orléans, Victor Misistrano.
Il a terminé en trombe son excellent mois de février. Meilleur marqueur de la rencontre, Bol Bol a permis à son équipe de mettre fin à une série de 3 défaites. Auteur de 25 points, le fils de la légende décédée Manu Thébol termine à 1 point de sa meilleure marque en carrière et bat son record de 3 points dans un match avec 5 tirs longue distance réussis.
Je me sens bien, mes coéquipiers m'ont mis à l'aise. Ils me disent de shooter dès que j'en ai l'opportunité et de continuer à le faire même si ça ne rentre pas. Ça m'a mis en confiance.
Le coach adverse Willie Green se montre impressionné par les qualités de basketteur du natif de Khartoum et ses 2m21.
Sa taille, sa capacité à dribbler, il sait shooter à 3 points. D'être capable de faire ça en étant aussi grand, cela crée toujours des décalages.
L'entraîneur des Pelicans se montre par ailleurs satisfait du match de son pivot Yves Missi. 24 points, c'est le nouveau record en carrière du jeune Camerounais.
J'ai aimé son agressivité, il s'est montré plus affirmé. Au moment de recevoir le ballon, il prend des décisions rapides. J'aime sa façon de manier le ballon proche du panier.
Et si son équipe a perdu, Yves Missi a encore confirmé qu'il était dans la course pour le trophée de rookie de l'année, parmi les meilleurs joueurs dont c'est la première saison en NBA.
Victor Misistrano du service des sports de RFI.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
RFI, il est midi 46 en temps universel, la suite d'Afrique Midi avec vos chroniques du samedi. D'abord la une de Jeune Afrique dans quelques instants où il sera question du rapport à l'Afrique de Donald Trump. Nous serons avec François Soudan, directeur de la rédaction du magazine. À suivre également votre rendez-vous de la semaine avec Jean-Baptiste Placa. Il sera question de la réunion cette semaine au Cap en Afrique du Sud des principales banques de développement du monde. Et puis un mot, une histoire. Lucie Bouteloup reçoit l'auteur-compositrice et interprète française La Grande Sophie. Comme chaque samedi, la une de Jeune Afrique, François Soudan, directeur de la rédaction de JA, nous ouvre les pages de son magazine. Il est au micro de Catherine Potet.
François Soudan, bonjour.
Bonjour Catherine.
Jeune Afrique consacre aux derniers propos du président américain sur l'Afrique du Sud un article intitulé « Trump, Musk et la coalition des givrés ». Pour vous, François Soudan, Pretoria est une cible qui n'a pas été choisie au hasard, loin s'en faut.
Ah oui, deux mots d'abord Catherine sur le titre, la coalition des givrés, c'est ainsi que le Wall Street Journal qualifie cette sphère complotiste qui gravit dans l'entourage de Trump et au sein de laquelle notre collaborateur Romain Chanson s'est intéressé à ces entrepreneurs de la tech originaires d'Afrique du Sud qui ont en commun une sorte de détestation de l'ANC et du gouvernement de Pretoria. Alors vous avez évidemment Elon Musk qui n'a jamais investi un seul dollar ni fait œuvre de charité dans son pays de naissance et de jeunesse et qui a retiré son entreprise d'un appel d'offres parce qu'il ne supporte pas la loi de discrimination positive en faveur des Noirs. Autre figure de la tech, David Sachs, natif du Cap, nommé tsar de l'intelligence artificielle et des cryptos dans la nouvelle administration Trump. Vous avez Peter Thiel, élevé en Namibie avant l'indépendance et qui est aujourd'hui l'un des plus gros donateurs de Trump. Vous avez l'investisseur Rolf Botha, au nom célèbre puisqu'il est le petit-fils de Pik Botha, le dernier ministre des Affaires étrangères de l'apartheid. Mais aussi dans le domaine des médias, vous avez le propriétaire du Los Angeles Times, hein, Patrick Soon-Shiong, la journaliste d'extrême droite Lara Logan, l'activiste ultra-conservateur Joël Pollack, qui est justement pressenti pour devenir le futur ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud. Toutes ces figures controversées de l'entourage de Trump semblent engagées dans une sorte de règlement de compte mémoriel avec leur pays de naissance, sous prétexte de défense des intérêts d'une communauté, les Afrikaners, qui représente moins de 7% de la population sud-africaine, Catherine.
François Soudan, vous consacrez par ailleurs votre éditorial à l'opinion africaine. Que pense-t-on de Donald Trump sur le continent ? L'heure semble être à l'hésitation ou parfois à la fascination, mais peut-on vraiment parler de fascination ?
Alors, il y a révulsion, évidemment, mais il y a aussi fascination, il ne faut pas s'y tromper. Pour la trajectoire personnelle, la réussite financière, la résilience politique de Trump et des prosélytes du putscho-souverainisme en vigueur au Sahel se félicitent de la façon dont le président américain maltraite les ex-puissances coloniales européennes. Et n'oublions pas qu'il partage nombre de thèmes de la croisade anti-woke de Trump. Comme lui, ils sont anti-vax, climato-sceptiques, ils fustigent les droits des minorités sexuelles, ce qu'ils qualifient de décadence morale importée d'Occident, et les contraintes de la bonne gouvernance. Pour eux, Trump, c'est un petit peu une aubaine, Catherine.
Dernier point, François Soudan, la diminution drastique de l'aide américaine à l'Afrique, ce qui pourrait d'une certaine manière faire le jeu de la Chine.
Tout à fait. En procédant à la quasi-liquidation du USAID, Donald Trump passe à la trappe un vecteur essentiel de l'influence américaine en Afrique. Et ce faisant, il tire les marrons du feu pour Xi Jinping, lequel se présente plus que jamais auprès de ses pairs du continent comme un partenaire rationnel, fiable, stable, porteur d'une offre économique durable et susceptible de prendre le relais au sein des organisations internationales comme l'OMS, par exemple, d'un leadership laissé vacant par le retrait américain. Alors, l'Europe étant par ailleurs trop affaiblie pour représenter une alternative solide, la Chine apparaît plus que jamais en Afrique comme la puissance de recours, Catherine.
Merci François Soudan. Les articles dont vous venez de nous parler sont à retrouver sur jeuneafrique.com.
François Soudan de Jeune Afrique avec Catherine Potet. Votre prochain journal dans un peu plus de 10 minutes, mais avant ça, un point sur les principaux titres de l'actualité. À les suites du clash hier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, du jamais vu dans la diplomatie américaine, rabroué, chahuté et finalement congédié de la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky joue aujourd'hui la carte de l'apaisement. L'inquiétude monte tout de même du côté de ses alliés européens. Le président ukrainien s'entretiendra avec Keir Starmer à Londres dans la journée et à l'instant, la Russie accuse Volodymyr Zelensky d'être obsédé par la poursuite de la guerre. À la une de l'actualité également, le regain d'inquiétude sur la santé du pape après une crise respiratoire. Une crise hier du pape François, suivie toutefois d'une nuit tranquille. La fragilité de l'état de santé du souverain pontife âgé de 88 ans suscite l'inquiétude 2 semaines après l'hospitalisation pour une pneumonie des 2 poumons. Cette semaine, le Cap accueillait les dirigeants d'un demi-millier de banques de développement du monde. Avec beaucoup d'annonces, quelques révolutions et engagements, notamment pour des investissements dans les objectifs du développement durable. Jean-Baptiste Placa, pourquoi subsiste-t-il malgré tout le sentiment que le développement est un rêve inaccessible en Afrique ?
Sans doute parce que la notion même de développement aux yeux des populations a perdu son sens. Les rares avancées sont trop souvent contrariées par des reculs brusques qui obligent à tout recommencer, tel Sisyphe derrière sa pierre. Après 60 ans à courir après le développement, il est en Afrique peu de pays où l'on peut dire aux citoyens que sur un plan précis, le développement a été atteint. Santé, éducation, adduction d'eau, électricité, infrastructure, pas ou peu de conquêtes irréversibles. Dans les années 70 et 80, l'on abreuvait les populations de slogans définitifs du genre « Santé pour tous en l'an 2000 » que l'on déclinait sur l'éducation, l'agriculture, l'alimentation et bien d'autres domaines. Nous sommes en 2025 et les populations attendent toujours le mieux-être et la satisfaction de leurs besoins fondamentaux que leur promettaient les politiques avec l'accession à la souveraineté internationale.
Et pourtant, Jean-Baptiste, presque partout, les États avaient créé des banques nationales de développement.
La plupart ont fini par faire faillite, plombés par les créances irrécouvrables ou douteuses sur des débiteurs haut placés, des dignitaires des régimes en place. La généralisation de ces abus avait conduit les États eux-mêmes au bord de la faillite, les contraignant à l'ajustement structurel et au plan drastique d'austérité que les gouvernants acceptaient de subir sans rechigner tant ils avaient mauvaise conscience. Ces institutions de lutte contre le sous-développement savaient, selon la formule d'Aimé Césaire, mal poser les problèmes pour mieux justifier les mauvaises solutions qu'elles leur apportaient. En plus, elles n'avaient aucune obligation de résultat et quand l'ajustement structurel échouait, elles inventaient l'ajustement structurel renforcé ou revoyaient à la baisse leurs ambitions. Réduire la pauvreté plutôt que de l'éradiquer, c'est bien commode. À l'image de celui-là, pour qui, à défaut de développer les pays, l'on pouvait juste rendre le sous-développement habitable pour les populations.
Mais alors, qui donc assume ce manque d'ambition, les États ou les institutions ?
En général, les institutions rejettent la faute sur les gouvernements. Ce que dénonçait l'économiste égyptien Samir Amin, pour qui ces institutions font de fausses analyses et proposent de fausses solutions en substituant des recettes techniques à l'analyse des causes et des racines de la faillite du développement de l'Afrique. du rapport Berg intitulé « Pour un développement accéléré dans l'Afrique subsaharienne », Samir Amin dénonçait la légèreté et l'irréalisme. Il déplorait que la Banque mondiale, dans ce document publié en 1981, attribue l'échec des politiques à la seule responsabilité des gouvernements africains qui, pour la plupart, n'avaient fait que suivre respectueusement les orientations indiquées par les institutions de Bretton Woods. Les reproches que faisaient ces institutions aux Africains au sud du Sahara étaient parfois contradictoires. Tantôt, on les accusait de mépriser l'agriculture, de donner la priorité à l'industrie, de contribuer au sous-développement de leurs ressources humaines. Puis, ce sont les mêmes qui faisaient croire aux populations africaines que les potions amères des programmes d'ajustement structurel suffisaient à opérer des miracles qui changeraient leur destin. Les mêmes qui, pour dégraisser la fonction publique, recommandaient d'envoyer médecins, enseignants et autres ingénieurs à la retraite à 50 ou 55 ans, âge auquel, en Occident, les éducateurs et autres soignants étaient considérés comme suffisamment expérimentés pour transmettre le meilleur du savoir et prodiguer les soins les plus efficaces. Les mêmes qui s'étonneront ensuite de voir dans ces pays l'enseignement piqué du nez et les hôpitaux se transformer en mouroirs. La triste réalité est que jamais les agrégats économiques n'ont été servis à table aux populations. PNB en entrée, PIB en plat principal, taux de croissance en dessert, non. Ce n'est pas cela le développement.
Jean-Baptiste Placa, à réécouter et à lire quand vous le voulez sur notre site et notre application. Chanteurs, poètes, écrivains, traducteurs ou encore philosophes, mais tous aussi amoureux de la langue française. Ils parlent au micro de Lucie Bouteloup d'un mot qui leur est cher et qui leur évoque quelque chose. Lucie Bouteloup reçoit en tout cas aujourd'hui une autrice et compositrice et interprète française.
Je trouve que les mots en hête, en général, mettent de la joie dans la vie. Je les trouve vraiment gais. Galipette, il y a couette, Suzette aussi, le petit surnom que je donne à Suzanne. Vous savez, tous ces mots qui amènent un petit peu de bonheur.
On la connaît, autrice, compositrice et interprète, et elle est désormais aussi écrivaine. Après 9 albums, dont 4 disques d'or et 2 victoires de la musique, la grande Sophie publie donc son premier livre, c'est Tous les jours Suzanne, et il est publié chez Phébus. Dedans, une centaine de lettres que l'autrice adresse à Suzanne, qu'elle appelle donc aussi parfois Suzette, et qui lui avait déjà inspiré une chanson dans l'album La Place du Fantôme. Dans ce livre, elle lui fait part de sa détermination à aller de l'avant et à se faire une place dans le monde. Et pour cet épisode, la grande Sophie a choisi de nous parler d'un mot résolument positif.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
J'ai choisi chouette parce que je l'utilise beaucoup. Je peux dire chouette à tout bout de champ dans une journée, quand quelque chose me plaît, évidemment. Au lieu de dire « oh, génial, super, trop bien », je dis « oh, chouette ». Alors, j'ai eu à le défendre. Parce qu'un jour, j'étais avec un proche et je me suis exclamée, j'ai dit « oh chouette ». Et là, la personne m'a regardée et m'a dit « mais pourquoi tu emploies ce mot aussi désuet, c'est moche ?» J'ai été hyper vexée en fait. J'ai dit « mais non, c'est un joli mot, vraiment, hein, c'était sincère ». Et je me suis mis à défendre ce mot parce que je l'avais entendu aussi, je crois, beaucoup dans mon enfance. Et j'ai envie qu'on continue à dire « chouette ». Puis, il y a un double sens aussi, il y a l'oiseau. Quand j'imagine chouette aussi, c'est une image de cet oiseau qui est sur sa branche, qui peut tourner sa tête dans tous les sens, qui observe. Je suis un peu comme ça aussi.
La chouette donc est un animal nocturne.
Nyctalope. J'adore ce mot aussi, j'ai failli choisir ce mot. Nyctalope, mais...
Nyctalope qui veut donc dire...
Qui voit la nuit. Et c'est marrant parce qu'à un moment donné, quand j'étais en concert, je disais aux gens, souvent vous savez, le public est dans le noir, je disais, je suis Nyctalope, je vous vois, j'étais une sorte de chouette en fait.
Et puis c'est aussi un animal qui inspire la sagesse, c'est un animal totémique la chouette.
La sagesse, c'est aussi mon prénom. Sophie veut dire la sagesse. Donc je me retrouve un petit peu dans tous les sens du terme de ce mot.
Alors c'est une interjection chouette qu'on utilise quand on est très enthousiaste. Est-ce que ça révèle quelque chose de votre personnalité ?
En général, je suis une, on va dire, pessimiste. Optimiste, c'est-à-dire que je montre le côté optimiste. J'aime bien, vous savez, même en faisant de la scène, j'aime bien apporter des petits bonheurs aux gens. Donc j'aime bien embellir. Et chouette, ce mot dans le paysage, pour moi, c'est un petit moment qui explose. Chouette.
Selon le dictionnaire Larousse, le mot chouette est un adjectif qui désigne ce qui est sympathique, généreux, mais aussi élégant, agréable, réussi ou encore très bon. C'est également une interjection qui exprime la satisfaction, le contentement.
C'était un mot, une histoire.
Et c'est ainsi donc que se referme cette édition d'Afrique Midi, réalisée par Benoît Raymond. Frédéric Gara était à la rédaction en chef avec Pierre Vallée. Merci à vous. Restez bien à l'écoute de RFI dans quelques secondes maintenant, un nouveau journal.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Akaki Popkadze, réalisateur franco-géorgien pour son premier long métrage « Brûle le sang ». Conversation ponctuée par son attachement aux coutumes géorgiennes, au Nouveau Testament, à Tarkovski et Robert Bresson, bref, un aller simple pour le 7e art.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Dimanche à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Cette semaine, le Club RFI Ouida du Bénin parle d'une formation sur les énergies renouvelables au profit de 15 jeunes de la ville. Il y a un intérêt croissant pour les énergies renouvelables sur le continent africain. Le Club RFI Ouida et ses partenaires estiment que former des jeunes est une solution durable face aux défis énergétiques.
Le Club RFI, Éric Amiens.
Dimanche, à partir de 19h40 TU.